Lorsque vous vivez des difficultés, des déceptions et des moments difficiles dans votre vie, comment réagissez-vous? Lorsque vous traversez des moments difficiles ou que les choses ne se déroulent pas nécessairement comme vous le vouliez, voit-on une différence dans votre conduite, dans votre tempérament ou encore à travers les expressions de votre visage? Laissez-vous les moments difficiles vous décourager? Êtes-vous moins accessible quand ça va moins bien? Avez-vous du mal à prendre des décisions? Qu'est-ce qui vous contrarie? Maintenant, vous dites que vous faites confiance en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau et que vous êtes une personne heureuse, mais lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, que vous venez de vivre de grandes déceptions et que votre corps vous fait souffrir, comment vous réagissez? Êtes-vous complètement anéanti? Votre attitude change-t-elle au point où les gens se demandent ce qui a bien pu vous arriver en se disant « mais je pensais qu'il était chrétien ». Qu'est-ce qui se passe avec lui, se disent-ils? Peut-on dire que vous êtes la même personne quand les choses vont bien ou quand les choses vont moins bien? Quand quelqu'un ou quelque chose vous a profondément déçu et que vous voulez prendre un temps de recul, que se passe-t-il au niveau de votre foi et de votre relation avec Christ? Cette relation change-t-elle? Il est possible que la façon dont vous exprimez les choses change ou peut changer un peu, mais cela provient peut-être du fait que vous n'avez jamais fait la différence entre le bonheur et la joie. Et pourtant, être heureux et être joyeux, c'est deux choses complètement différentes. Quelle est donc la différence entre le bonheur et la joie? Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand vous lisez l'Épître aux Philippiens, vous découvrez que l'apôtre Paul parle de joie ou d'être joyeux. Écoutez bien ça. Un verset en moyenne sur 7. Maintenant, quand Paul parle aux chrétiens de Philippe, il n'est pas assis dans un château, il est emprisonné dans une prison romaine, et il déborde de joie. Et non seulement il déborde de joie, mais c'est un encourageur. Il va encourager les chrétiens qui sont à l'extérieur de la prison à persévérer et à poursuivre finalement leur cheminement chrétien. Je vous invite donc à tourner avec moi dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 4. Je vais la lire dans la version français courant. Alors, on a parlé d'interprétation de traduction. Le français courant a peut-être traduit faiblement le mot joie par heureux, mais on va voir que c'est vraiment différent au point de vue biblique. Et que, en tout cas, on va voir pour la suite, mais je vais la lire dans la Louis II parce qu'il y a le mot joie plutôt que le mot heureux. Ça va être plus facile. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous êtes ma joie et ma couronne. Demeurez ferme dans votre vie avec le Seigneur. J'exhorte Saint-Tiche à se mettre d'accord comme des sœurs dans le Seigneur. Et toi aussi, mon fidèle compagnon, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre l'Évangile, ainsi qu'avec Clément et tous mes autres compagnons de travail, dont les noms se trouvent dans le livre de vie. Et il dit ceci, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Quel énergumène cet apôtre Paul, n'est-ce pas? Il a été lapidé à plusieurs reprises. Il a même passé 24 heures dans l'eau. Il a chaviré à plusieurs reprises. On l'a poursuivi. Il a été mis en prison injustement, uniquement parce qu'il avait annoncé l'Évangile. Et l'apôtre Paul, il trouve le moyen d'être un encourageur. Frères et sœurs, sommes-nous des thermomètres ou des thermostats où Dieu nous place? Vous savez la différence entre un thermomètre et un thermostat? Le thermomètre, lui, est influencé par la température ambiante. Le thermostat, lui, va influencer la température à l'intérieur. Sommes-nous des thermostats ou des thermomètres? Paul, c'était un thermostat, un super thermostat. quand on regarde l'intérieur des prisons, je ramène, il y avait tout déjà pour que quelqu'un veuille se suicider en mettant les pieds dans une prison romaine, parce que non seulement on les mettait en cellule, mais on les maltraitait. Il faisait extrêmement froid l'hiver, et il faisait extrêmement chaud l'été. C'était intenable, une prison romaine. Frères et sœurs, que vous faut-il pour que vous ayez de la joie dans votre vie? Quand je pense à l'endroit où se trouvait Paul, il avait toutes les raisons du monde pour être profondément malheureux. Incarcéré dans une prison romaine, comme je l'ai dit, froide en hiver, je dirais même très froide en hiver et très chaude en été, il savait que son avenir était déjà déterminé. Il savait qu'il allait probablement mourir et malgré toutes les conditions dans lesquelles il se trouvait, il va écrire cette épître qui parle continuellement de joie, de sa relation avec le Seigneur qui ne correspond pas du tout à l'endroit où il se trouve. Nous pouvons donc nous poser la question suivante. Si je me retrouvais dans la même situation que l'apôtre Paul, comment me sentirais-je? Serais-je heureux? Avant, aurais-je de la joie dans mon cœur? Est-ce que je serais en train de raconter toutes les bonnes choses que Dieu a faites dans ma vie ou est-ce que je ne serais pas en train de me lamenter sur mon sort? Est-ce qu'on oserait, frères et sœurs, faire une seule journée de prison pour l'Évangile en Belgique? Pour ceux qui ont vu déjà le film La Croix de Jésus en Chine, c'est découpé en différentes provinces. Et chaque province est dirigée par un gouverneur. Et chaque gouverneur donne la liberté ou empêche les chrétiens de pouvoir annoncer l'Évangile. Et on a vu dans ce film des chrétiens qui vivaient dans des provinces où l'Évangile était interdit. Des chrétiens qui ont fait 20 ans de prison parce qu'ils ont annoncé l'Évangile. Et quand ils sont sortis de prison, on les a menacés que s'ils recommençaient à prêcher l'Évangile, on les enverrait encore en prison. Et ces chrétiens qui disent, écoute, je viens de faire 20 ans, si vous voulez m'en faire 20 autres, je suis prêt à faire les 20 autres, je ne renierai pas mon Seigneur. Je pense à Épaphras, qui avait vu le film? Épaphras, qui était condamné à 20 ans de prison, et le fait sortir au bout de 15 ans parce qu'il était en train d'évangéliser tous les gardiens et les prisonniers à l'intérieur de la prison. Il dérangeait le système. Et il se battait, il insistait pour faire ses 5 dernières années. On est en Chine, on n'est pas à Lantin, on n'est pas à Marche. Et qu'est-ce qu'il a fait? On l'a mis dehors quand même, il a loué un appartement collé sur la prison pour aller visiter les prisonniers à chaque jour dans la prison. Ce frère qui vient de mourir, il n'y a pas longtemps, jeûnait 5 jours par semaine pour le salut des âmes des prisonniers en prison. Quand vous le regardez sur le film, vous ne pouvez pas faire autrement que de pleurer à regarder ce témoignage. C'est incroyable. Et on a l'exemple de Paul avant ces Chinois, avant d'autres qui nous ont précédés, où Paul est en prison, et ce n'est pas son environnement qui va lui faire perdre finalement la joie qu'il a reçue du Seigneur. Ce n'est pas les circonstances non plus. Parce qu'il sait qui est Dieu. Il sait quel Dieu il sert. Et il sait que peu importe qui est en prison, il sait que Dieu est avec lui en prison. Est-ce que vous êtes en amène à ça? Oui. L'apôtre Paul savait comment faire face aux circonstances de la vie, et quand je réfléchis, je pense qu'il n'avait pas seulement la joie dans son cœur, mais qu'il avait une joie débordante, une joie triomphante, une joie qui lui permettait de surmonter toutes les difficultés, les épreuves et les déceptions auxquelles il faisait face dans la vie. Quelle est la différence maintenant entre le bonheur et la joie? Nous entendons souvent les gens dire, « Moi, je veux être juste heureux dans la vie. » Et si le bonheur dépend des circonstances, frères et sœurs, il peut dépendre parfois de ce que vous avez, de votre réussite, de votre travail et de vous. Tandis que la joie a quelque chose à voir avec l'intérieur d'une personne. Voilà la différence. Mon bonheur dépend des circonstances, tandis que ma joie dépend de la qualité de relation que j'ai avec Jésus-Christ. Je vous ai déjà raconté, je vais le dire parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Quand j'étais dans la police, il y avait un policier qui faisait rire tout le poste de police. On était 150 personnes dans le poste, 150 policiers, et il faisait tout rire. C'était vraiment le bouffon. Il avait toujours le sourire. Et un jour, je suis rentré au poste et j'ai appris qu'il avait bu 6 canettes qui s'étaient rendues au cimetière sur la pierre tombale de son père, qu'il avait bu 6 canettes de bière et qu'il avait pris son arme de service et qu'il s'était tué. Il se paraissait l'homme le plus heureux qu'il n'y avait pas dans le poste. Il nous faisait cramper de rire. On dit ça ici, cramper de rire. Non? Une expression québécoise. Ça veut dire qu'il nous faisait plier en deux tellement on riait. Ouais. Voilà. Parce que quand on a une crampe, ben, habituellement, on se penche aussi, non? Donc, on dit cramper en deux. Voilà. Voilà. Frères et sœurs, le bonheur, c'est relié aux circonstances, aux situations. Mais la joie, eh bien, c'est à l'intérieur. Est-ce que votre cœur est joyeux ce matin? Est-ce que votre cœur est joyeux? Cette relation avec Jésus-Christ peut me soutenir dans n'importe quelle difficulté que je rencontre dans ma vie, tandis que ce n'est pas le cas pour le bonheur. Il y a une forte différence entre le bonheur et le sentiment de joie que l'apôtre Paul ressentait dans son cœur. Quand je pense à cela, je pense à la joie qui est un sentiment qui vient de Dieu, alors que le bonheur se limite à être un sentiment stimulé et provoqué par tout ce que le monde met à notre portée. En d'autres mots, le bonheur est une forme de compensation que le monde nous offre parce qu'il ne peut pas nous offrir la joie qui vient d'en haut, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de choses rendent les gens heureux et malheureux, mais quand vous avez fait confiance à Jésus-Christ comme votre Sauveur et que le Saint-Esprit habite en vous, parce que vous êtes un enfant de Dieu et que vous savez qu'il ne vous délaissera jamais, qu'il ne vous abandonnera jamais, peu importe ce que vous devez affronter ou ce que nous devons affronter, cela ne fait aucune différence pour nous. Et nous avançons avec une totale confiance au plus profond de nous-mêmes et avec une joie, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas décrire parce que nous avons la certitude que Dieu est souverain et que si Dieu est souverain, non seulement il est en parfait contrôle de tout, de ce qui m'arrive, mais c'est lui-même qui le permet. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a beaucoup de gens qui se mettent à crier que Dieu est souverain. Ça, c'est la défense souvent de beaucoup de personnes. Ah, Dieu est souverain. Mais Dieu est souverain pour les bonnes choses, mais on dirait qu'il l'est moins pour les mauvaises choses. Frères et sœurs, vous savez pourquoi Paul n'a pas perdu sa joie en prison? Parce que c'est vrai que son Dieu était souverain. Il savait aussi que son Dieu était en contrôle de toutes choses. Et si Dieu était en contrôle de toutes choses, il savait que c'est Dieu qui lui avait permis d'aller en prison et que c'était la volonté de Dieu qui allait en prison. À Philippe, il va avoir un réveil incroyable à un moment donné. Paul et Silas. C'est bien à Philippe, hein, Ernest? Voilà. Ouais. Dieu ne les a pas envoyés là pour rien. Si Dieu ne voulait pas faire un réveil dans la ville, il voulait faire un réveil dans la prison. Il a ébranlé les fondations de la prison. Le geôlier, quand il a vu ça, il a voulu se suicider. C'est Paul qui l'a arrêté. Parce qu'un prisonnier qui se sauvait, un prisonnier qui s'évadait, c'était le geôlier qui en payait de sa vie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, non seulement il y a eu un réveil extraordinaire dans la prison, non seulement on a empêché le geôlier de se suicider, mais en plus, lui et sa famille ont été sauvés. Frères et sœurs, c'est vrai que Dieu est en contrôle de toutes choses. Et rappelez-vous que si ce n'est pas une question de péché dans votre vie, tout ce qui vous arrive, Dieu le permet. Simplement pour vous faire grandir votre foi, mais aussi pour se glorifier à travers vous, à travers moi. Dieu peut se glorifier dans la maladie. On est une génération de personnes qui refusent, qui ont horreur de souffrir. Et frères et sœurs, si Dieu ne permettait pas la souffrance sur la terre, avec le cœur dur qu'on a, il n'y a personne qui se tournerait vers Dieu. Parce que quand ça va bien, on n'en a rien à cirer de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et Dieu permet qu'une petite cellule qui fonctionne moins bien, et là, ouf, on se réveille, on commence à prier, on commence à crier à lui. Ouais. Et je ne parle pas juste pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je parle aussi pour ceux qui sont chrétiens. On peut se laisser tenter, se laisser emporter par ce qui se véhicule dans la société. Et à un moment donné, ben Dieu n'est plus le premier dans notre vie, il est le deuxième, le troisième, le quatrième, et souvent il est à la dernière, il occupe la dernière place. Mais la parole nous dit que Dieu est un Dieu jaloux, donc une sainte jalousie. Et Dieu veut toujours occuper la première place dans notre vie quand on déclare, quand on s'affiche comme chrétien. Et Paul ici, eh bien, Paul savait que son avenir était très hypothéqué, voire même sans aucune issue possible. Il ne pouvait donc pas regarder autour de lui et dire « Je suis heureux à cause de ceci » ou « Je suis triste à cause de cela ». Il ne pensait même pas à sa situation. Je pense souvent que nous, qui nous disons chrétiens, nous nous faisons prendre au piège et nous laissons les circonstances trop souvent déterminer ce à quoi nous rassemblerons ou si nous devons sourire ou pas sourire. Vous avez remarqué, des fois, vous dites aux gens « ça va ?» Oui. Ils essayent d'aligner leurs nerfs sur les côtés pour faire un beau sourire, mais en fait, vous savez que ça ne va pas. On sait que ça ne va pas. Les enfants de Dieu ne vivent pas en fonction des circonstances, mais en fonction de la qualité de leur relation avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, quelle est la qualité de votre relation avec Jésus-Christ ce matin? C'est ce qui va déterminer si vous avez cette joie céleste dans votre cœur ce matin. Les enfants de Dieu, je le répète, ne vivent pas en fonction des circonstances, mais en fonction de la qualité de leur relation avec Jésus-Christ, sachant que personne ne peut rompre cette relation sauf le péché. L'apôtre Paul savait où il se trouvait, et peu importe s'il se trouvait à l'intérieur d'une prison ou à l'extérieur, il savait que là où il se trouvait, cela n'allait pas déterminer sa façon de penser ou sa façon d'agir. Il savait que peu importe où il était, Dieu y était aussi. Non seulement il avait l'intention de manifester sa joie, la joie qui était dans son cœur, mais il savait que la joie du Seigneur était sa force pour affronter tout ce qui l'attendait. Ça, c'est pas une parole du Seigneur. Ça, c'est pas une parole de votre pasteur. C'est une parole de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Sachez que la force du Seigneur sera votre joie. Ou c'est le contraire. Merci. Voilà, il y en a une qui suit dans toute l'Église, là. La joie du Seigneur sera votre force. Parce qu'elle vient d'en haut. Frères et sœurs, quand le Seigneur, quand la parole, elle dit, les gens sauront que vous êtes tous mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est pas un amour humain. C'est un amour divin. Quand on passe par la nouvelle naissance que Jésus essaye d'expliquer à Nicodème dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, eh bien, c'est l'amour qui vient d'en haut. Sinon, les gens du monde, ils sont capables de s'aimer, hein. Faut pas penser que tout le monde s'haït à l'extérieur. Ils ont quand même des sentiments d'amour aussi. Ils ressentent quand même des sentiments d'amour. Mais c'est un amour qui se limite à un amour humain. Et quand on vient au Seigneur, quand on est né de nouveau, on reçoit d'en haut cet amour qui était dans le cœur de Jésus-Christ. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a l'Esprit de Christ qui habite en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que les gens vont voir qu'on est différent des autres, parce que la façon qu'on va s'aimer est complètement différente de la façon dont les gens à l'extérieur s'aiment. La joie qu'on a à l'intérieur de nous, les gens vont savoir que c'est une joie qui est différente du bonheur que le monde vend aux gens. C'est une joie qui vient d'en haut. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas heureux, mais c'est en fonction des circonstances. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on est heureux sur le moment, qu'on va toujours être heureux pour la même chose. Vous avez connu, vous avez entendu parler de la famille Lavigueur. Non, on a fait un film. La famille Lavigueur, c'était une famille qui achetait, ils mettaient chacun un montant d'argent égal pour acheter des billets de loto. Ils achetaient je ne sais pas combien de billets de loto. Et finalement, bien, ils ont gagné. Mais il y a une semaine, la semaine qu'ils ont gagné, il y a une des filles, des Lavigueur, qui avait oublié de payer. Donc, la famille, même si c'était la sœur, ils ont dit, bien, vu qu'elle n'a pas payé, elle ne peut pas toucher le gros lot, vu qu'elle n'a pas payé cette semaine-là. Alors, la sœur, bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a traîné les gens devant le tribunal. Ils étaient tous heureux au début, hein? Ils ont gagné un gros lot de plus de 10 millions d'euros. Et là, bien, ça finit que ça s'est traîné devant le tribunal. Et la famille s'est entre-déchirée. Le père est mort du cancer. Il y en a, je ne sais pas combien de personnes dans cette famille-là qui a été atteint par la maladie à cause du stress. Mais ça a traîné pendant des années. Et c'était une vraie risée au Québec, cette histoire-là, quoi. Les gens, ils sautaient de bonheur le jour où ils ont... Ils étaient heureux le jour où ils ont touché. Mais c'est les conséquences. Et c'est ça, être heureux, c'est en fonction des conséquences, des situations dans lesquelles on vit. Frères et sœurs, quand vous pensez à la paix et à la joie dans votre vie, est-ce que vous savez quelle en est la source? Il y a des gens qui subissent une petite contrariété, pardon, un petit traumatisme, un petit chagrin, voire même un petit contretemps. Et cela suffit à les mettre par terre pendant des jours et des semaines, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent traverser des événements dramatiques, vivre des situations catastrophiques et demeurer calmes, voire même capables d'encourager les autres, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul faisait partie de cette trempe d'hommes. Il avait en lui un fondement inébranlable, et Paul savait ce que c'était. Frères et sœurs, j'aimerais que vous remarquiez qu'il manque quelque chose dans ces quatre chapitres de Philippiens. Je ne vous demanderai pas quoi, parce que je l'ai préparé, donc je ne veux pas vous prendre à contre-pied, mais il manque quelque chose dans ces quatre chapitres de Philippiens. Que manque-t-il, frères et sœurs, que nous aurions dû trouver de la part de Paul? J'en ai donné trois. Dans ce chapitre, dans ces versets, pardon, et dans ces quatre chapitres, alors qu'il est en prison, il ne dit jamais qu'il est triste d'être là. Spécial, hein? Deuxièmement, il ne parle jamais de la gravité des circonstances alors qu'il est menacé d'être pendu, d'être exécuté. Jamais. Et troisièmement, il ne se plaint jamais de l'endroit où il se trouve. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les yeux fixés sur l'endroit où il était. Il avait les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ qui était avec lui dans la prison. Frère, comment réagissons-nous aux situations que nous vivons au quotidien? Est-ce que nous réagissons en fonction des circonstances, des situations dans lesquelles nous devons affronter? Ou si nous réagissons en pensant que nous ne sommes plus seuls à affronter ces situations, mais que Jésus-Christ est avec nous? Et il a dit, « Sachez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'est pas visible, mais c'est par son esprit qui habite en nous. Donc, un chrétien n'est jamais seul. Jamais seul. Vous dites « Amen » à ça. Il est possible que plusieurs d'entre nous auraient tenu ce genre de conversation. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis ici en prison, mais je voudrais bien qu'on me fasse sortir le plus tôt possible. Ça pourrait être la phrase d'à peu près tout le monde. Il n'y a personne qui aime aller dormir en prison. Et il n'y a personne qui aime aller faire un court ou un moyen ou un long séjour en prison. Vous savez, au Québec, on a banni la peine de mort. Donc, la peine maximum, c'est 25 ans. Et vous savez que ce sont les prisonniers qui mettent de la pression pour qu'on remette la peine de mort au Québec. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est prison uniquement pour ceux qui ont été condamnés à 25 ans. On ne peut pas les condamner plus que 25 ans. C'est pas aux États-Unis, hein, comme 450 ans puis 600 ans de prison. Pas plus que 25 ans. Il peut tuer un gardien de prison, il peut tuer un autre prisonnier, il a eu la peine maximum il y a 25 ans. Et ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en train de faire des monstres de nous, de ne pas nous permettre de pouvoir participer à la peine de mort, parce que c'est invivable en prison. Moi, je suis obligé de me surveiller tout le temps. Je peux pas dormir tant que celui qui est en même prison que moi ne dorme pas. J'ai peur qu'il me tue pendant que je vais dormir, si je dors le premier. C'est intenable. Et frères et sœurs, faites juste imaginer un peu ce que les gens peuvent vivre par rapport à des situations, parce que les gens du monde, ils vivent en fonction des circonstances et des situations qui sont confrontées à tous les jours. Mais le Seigneur nous dit, pour être heureux, et le Seigneur nous dit, écoute, moi c'est la joie que je veux te donner, c'est une joie céleste. Et je n'ai pas le temps de tout regarder ensemble avec vous ce matin, mais pensez à ces hommes, quand vous pensez à l'apôtre Paul, il remercie Dieu pour la possibilité qu'il lui a donnée. Imaginez-vous, il est en prison, et quand vous lisez l'Épître aux Philippiens, il remercie Dieu pour la possibilité, le privilège qu'il lui donne de pouvoir annoncer l'Évangile aux prochains soldats qui vont le surveiller pendant les prochaines heures, même s'il se trouve dans une prison romaine. Pensez à ces hommes, à ces gardiens qui étaient dans la même prison que l'apôtre Paul, qui ne croyaient plus en rien, et il suffisait qu'ils soient en contact avec lui 3 ou 4 fois dans leur vie, pour se demander comment cet homme pouvait avoir un tel moral et être aussi joyeux. C'était un témoignage en lui-même, l'apôtre Paul, parce qu'il n'y avait aucune explication humaine pour soutenir une telle foi, une telle joie. Comment les soldats ne pouvaient-ils pas croire lorsque Paul leur annonçait que c'est grâce aux promesses du Seigneur Jésus qu'ils pouvaient garder cette joie dans son cœur? Comment les chrétiens de Philippe ne pouvaient-ils pas être encouragés lorsqu'ils lisaient dans cette épître tous ces versets qui parlaient des promesses de Dieu, de la joie, de la réjouissance qu'on pouvait retrouver dans le Seigneur? Par exemple, lorsqu'il écrit Philippiens chapitre 3, 20-21, regardez ce qu'il écrit. Tournez, vous avez votre Bible pour ceux qui ont leur Bible. Il dit ceci. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux et nous attendons ardemment que vienne des cieux notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps terrestre et le rendra semblable à son corps glorieux en utilisant la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Quelle joie inébranlable l'apôtre Paul avait! Vous savez ce qui faisait sa joie, peu importe ce qui arrivait? C'est qu'il croyait qu'il y avait une vie après la mort. Il ne croyait pas juste en Jésus-Christ mort pour ses péchés, il croyait en Jésus-Christ ressuscité et il manifestait cette joie à cause non seulement qu'il avait reçu le pardon de ses péchés, mais qu'un jour, eh bien, la mort, ce n'était pas la fin de tout pour lui, mais c'était le début d'une nouvelle vie dans la présence de Dieu pour l'éternité avec toutes les promesses que Dieu donne dans sa parole. Et ça, ça blindait l'apôtre Paul. Ça blindait l'apôtre Paul. Personne ne pouvait lui voler sa joie parce que Paul avait les yeux fixés sur Jésus-Christ et il savait quel Dieu il servait. Alors qu'il était en prison, il aurait pu même remettre sa foi en question parce que tout n'allait pas comme il avait prévu. Les principaux sujets qu'il va aborder dans cette lettre sont la joie, la confiance et l'assurance du chrétien concernant les promesses de Dieu. Nulle part il se plaint dans cette lettre, frères et sœurs. Au contraire, il explique même à ses auditeurs ou à ses lecteurs pourquoi il déborde de joie malgré la situation dans laquelle il se trouve. Quelle était la source de cette joie? La source de cette joie, je le répète, c'était sa relation intime et personnelle qu'il avait avec Jésus-Christ ressuscité. Ça ne pouvait pas être autre chose. Voilà pourquoi il peut leur dire, regardez dans le verset 21 au chapitre 1. Regardez ce qui est écrit. 1:21. Pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort m'est un gain. Il n'y a pas grand monde qui sont capables de dire ça. Pas grand monde qui est capable, pardon, de dire ça, que la mort est un gain. Les gens ont tellement peur de mourir parce qu'ils ne sont pas certains d'où ils vont aller. Mais Paul ici, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Pour moi, ma vie, c'est le Christ, et pour moi, la mort, c'est un gain. Et un peu plus tard, il va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Comment voulez-vous faire peur à un homme comme ça? Comment voulez-vous faire peur à un homme qui vous dit, écoute, tu veux me tuer, vas-y, tu vas me rendre service. Tu vas me rendre service parce que moi, je crois dans la résurrection des morts et je vais aller retrouver mon sauveur qui m'attend pour m'ouvrir les portes du paradis. Et d'ailleurs, il le dit dans Philippiens. Hein? Mon cœur, ce serait, mon désir, ce serait de retourner tout de suite auprès de mon Seigneur, mais en même temps, mon cœur, c'est d'être avec vous pour pouvoir partager la grandeur du Seigneur. Et cette relation intime lui permettait de dire, je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Philippiens chapitre 3, verset 13-14. Frères et sœurs, quel est le prix qui nous attend là-haut? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Il dit, je cours derrière, j'oublie ce qui est derrière moi et je me force d'atteindre ce qui est devant moi. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus a dit, celui qui regarde en arrière est inutilisable pour le royaume de Dieu. Paul dit, moi j'ai cessé de regarder en arrière de moi. Mon passé, je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ. L'ancien Paul, il est mort, mais je suis une nouvelle personne. Ce qui est derrière moi, c'est du passé, c'est terminé. Moi maintenant, je regarde ce qui est devant moi. Et qu'est-ce qu'il y a devant lui, c'est quoi? C'est il y a un prix. Il y a un prix à recevoir devant lui. Et le prix, c'est la vie éternelle. Et il ne veut pas perdre ce prix-là. Et il va courir jusqu'au bout. Et on sait qu'est-ce que c'est le prix dans le langage spirituel, c'est qu'il veut garder la foi. La foi qu'il a reçue, il veut garder jusqu'à la fin. Il veut persévérer jusqu'à la fin. Frères et sœurs, nous avons le même privilège que celui que l'apôtre Paul avait il y a 2000 ans. Vous avez le même privilège, j'ai le même privilège. Paul dit, je fais une chose. Frères et sœurs, est-ce qu'on fait, nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on s'applique à faire qu'une seule chose dans notre vie? Ou si on n'est pas en train de tatiner avec plusieurs choses qui nous ramènent souvent en arrière et qui nous empêchent d'avancer pour aller chercher le prix que Dieu nous réserve en Jésus-Christ. Jésus n'a pas changé, c'est son plan pour vous, peu importe où vous et moi nous nous trouvons. Il veut vivre en nous, il veut agir à travers nous par son esprit, afin que nous puissions avoir un impact auprès de ceux qui ne le connaissent pas à travers la joie et l'espérance qui se trouve en nous. C'est ce que faisait l'apôtre Paul, c'est ce que l'apôtre Paul s'appliquait et c'est ce qu'il partageait avec les gens. Il se réjouissait toujours dans le Seigneur, il trouvait le moyen de le louer même pendant qu'il était en prison. Permettez-moi alors de vous poser la question suivante. Quand les choses vont vraiment mal pour vous, Avez-vous le réflexe de partager au Seigneur ces choses qui vous préoccupent? Êtes-vous prête à vous soumettre à sa volonté? Avez-vous cette joie dans le Seigneur? De mon côté, frères et sœurs, je dois vous avouer qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour que ce qui est écrit dans les pages, dans les quatre chapitres de Philippiens, eh bien, vienne se graver dans mon cœur afin que je puisse me réjouir toujours dans le Seigneur et rendre grâce à Dieu, même quand tout ne va pas pour le mieux. Frères et sœurs, c'est un apprentissage de tous les instants de se réjouir continuellement dans le Seigneur. Continuellement. La français courant dit, dans la Louis II, on dit « Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause du royaume de Dieu ». La français courant dit « Heureux », mais en fait, « heureux », c'est un mot qui est très, très, très terrestre, très humain. C'est plutôt le mot « bienheureux ».« Bienheureux », c'est « béni ».« Béni êtes-vous » parce que vous êtes persécutés à cause de la parole. Cette bénédiction, elle ne vient pas de la terre, cette bénédiction, elle vient d'en haut. Mais heureux, je ne suis pas capable de dire à quelqu'un, moi je suis heureux, je suis pas capable, je suis capable de dire à quelqu'un, oui je suis heureux, mais je ne serais pas capable de dire à quelqu'un, je suis bien heureux, parce que ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Si je suis bien heureux aujourd'hui, c'est parce que Dieu me trouve digne en Jésus-Christ de faire en sorte que je puisse être bien heureux. Dites amen à ça. Ça, c'est des choses vraiment, vraiment importantes, des différences à faire. On n'aura pas le temps vraiment ce matin de terminer le message. Je ne sais pas si vous vous en apercevez, j'essaie de clôturer quelque part. Oui, parce que il y a eu la Sainte Cène et c'est vrai que ça prolonge le culte. Mais ce que je voudrais essayer avant de terminer, de vous transmettre, c'est ceci. Dieu ne vous rejettera jamais, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous faites, même si en tant que chrétien, vous ne vivez pas comme Dieu vous demande de vivre, Dieu ne vous rejettera jamais. Et encore une fois, ça revient à 4 à 5 mots, G-R-A-C-E, à cause de sa grâce. Maintenant, Dieu non plus, ce n'est pas un idiot. Si on baigne dans le péché, eh bien, il y a une chose que Dieu s'attend de ses enfants, c'est qu'on puisse venir devant lui, se repentir et lui demander pardon. Et à ce moment-là, eh bien, la parole est claire. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, eh bien, nous savons que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Nous pouvons avoir confiance en lui. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera du mal. Je vais essayer peut-être de continuer la semaine prochaine, Dieu voulant. Non, la semaine prochaine, c'est la fête de la moisson, mais la prochaine fois. Mais ce qui est important pour nous, c'est de voir qu'on a un privilège qui n'est pas accordé à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est qu'on a une joie qui vient d'en haut. Et que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à vivre en fonction des circonstances ou des situations dans lesquelles on vit, mais à partir de ce que la parole nous dit. Et vous savez, Jésus a dit la même chose, hein, afin que sa joie soit parfaite. Il n'a pas dit afin que je sois parfaitement heureux. Il a dit à ses disciples, afin que ma joie soit parfaite. Jésus a utilisé le mot joie à plusieurs reprises, afin que ma joie soit parfaite. Aimez-vous les uns les autres, afin que ma joie soit parfaite. Et tous seront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et encore une fois, frères et sœurs, la joie du Seigneur que le Seigneur ressent, cette joie qu'il nous a donnée, C'est la même joie qu'on retrouve dans Luc, quand le Seigneur il dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin du salut. C'est cette même joie. C'est cette même joie. Elle vient d'en haut. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné en Jésus-Christ. Alors, il nous a donné tous les dons de l'Esprit à développer. L'Esprit produit différents dons, différents fruits. Mais en même temps, ce qui est important, on ne peut pas manifester ses fruits si on n'a pas la joie du Seigneur qui habite en nous. Et la joie du Seigneur, eh bien, elle demeure en nous à partir du moment où on vit comme Dieu nous demande de vivre. Maintenant, je sais que ce n'est pas facile. On vit dans une société qui est extrêmement difficile. Mais tout est possible à celui qui croit, parce que rien n'est pas impossible à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, lorsque l'occasion se présentera, on terminera ce message.